11h30 en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
RFI Midi, Anne Contner.
Dans une demi-heure, ce sera l'heure de votre journal. Charlotte Hydrac avec à la une la piste de la cyberattaque écartée en Espagne et au Portugal.
Oui, après la méga panne électrique qui a provoqué des situations chaotiques, l'Union européenne indique qu'elle va tirer les leçons de cet incident d'une ampleur inédite.
On sera aussi au Canada. C'est gagné pour Marc Carnet.
Le libéral vainqueur des législatives et qui a annoncé la couleur vis-à-vis de Donald Trump. Il promet de ne jamais oublier ce qu'il qualifie de trahison américaine. En Israël, vous l'entendrez, le premier ministre Benjamin Netanyahou commencerait à envisager la fin de la guerre à Gaza d'ici quelques mois. C'est en tout cas ce que rapporte la presse israélienne. Et puis Amazon a lancé ses premiers satellites de sa constellation Internet. C'est le projet du richissime Jeff Bezos qui ambitionne de concurrencer le géant Starlink du non moins richissime Elon Musk. Une nouvelle guerre des étoiles. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RFI. L'Europe à midi.
Un peu plus de 24 heures après la panne de courant géante qui a frappé l'Espagne et le Portugal, on ignore donc encore les causes de l'incident. La vie est presque revenue à la normale dans la péninsule ibérique. Julien Chavannes, on vous retrouve en direct de Bilbao, dans le nord de l'Espagne, où vous vous trouvez avec Boris Vichit. On n'a toujours pas d'explication, mais une piste déjà semble écartée.
Oui, celle de la cyberattaque. Eduardo Prieto, le directeur de Red Electrica, l'entreprise qui gère le réseau électrique en Espagne, a donné une nouvelle conférence de presse tout à l'heure.
Ce matin, nous avons pu conclure qu'il n'y a eu aucune intrusion dans les systèmes de contrôle du réseau électrique qui aurait pu provoquer l'incident.
Alors un phénomène météo ou atmosphérique semble aussi écarté. Le problème viendrait du sud-ouest du pays. Une chute de la production solaire pourrait être en cause selon l'enquête préliminaire. Mais encore rien de sûr et certain. Les vérifications se poursuivent.
En attendant, les transports ont repris quasiment dans tout le pays. Le réseau téléphonique fonctionne aussi de nouveau. Mais sur le plan politique, Julien, les esprits s'échauffent.
Oui, depuis hier soir, plusieurs responsables politiques accusent le gouvernement de Pedro Sanchez d'avoir mal géré la crise. Une communication désastreuse, des décisions tardives ou inexistantes. Les critiques viennent de Vox, le parti d'extrême droite, mais aussi du chef du parti populaire à droite ou encore du président de la région de Murcie. Pedro Sanchez lui a passé toute la matinée en réunion de crise. Nous demanderons des comptes aux opérateurs privés, a-t-il prévenu en conférence de presse. Le président du gouvernement qui n'écarte toujours aucune piste. Il a annoncé la création d'une commission d'enquête.
Julien Chavannes en direct de Bilbao avec Boris Vichit.
RFI Midi.
On va se pencher maintenant sur l'un des secrets de la guerre en Ukraine, les prisonniers fantômes de la Russie qui sont au cœur d'un long travail d'enquête mené par Forbidden Stories avec de nombreux médias européens. Der Spiegel, Die Zeit, France 24, Le Monde, Ukrainska Pravda ou encore Le Guardian et le Washington Post aux États-Unis. Pour en parler, on accueille Laurent Richard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Forbidden Stories dont l'objectif, on le rappelle, est de reprendre le travail de journalistes disparus, en l'occurrence là, celui de Victoria Roshina. Qui était-elle? On va dire un mot quand même de sa personnalité, de son parcours.
Oui, Victoria Roshina, c'était une journaliste âgée de 27 ans qui était la seule journaliste ukrainienne à oser couvrir les territoires occupés par la Russie. Elle y allait, elle avait déjà été arrêtée par le FSB, elle avait été interrogée brutalement. Elle avait décidé d'y retourner à l'été 2023 pour enquêter sur quoi? Pour enquêter sur un système de détention secret, pour enquêter sur ces milliers de civils ukrainiens disparus dans des prisons en Russie et torturés. Et elle a fini victime de sa propre enquête et on a décidé avec 45 autres journalistes de poursuivre son travail.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Alors on a essayé de reconstituer le fil de la vie de Victoria et aussi de sa mort, des conditions de sa mort. On sait qu'elle était partie donc pour couvrir les atrocités commises par les Russes dans ce qu'ils appellent les garages, sorte de chambres à torture, où les civils ukrainiens se retrouvaient entassés par centaines, voire par milliers, pour y être ensuite torturés. Elle voulait nommer aussi et identifier ceux qui étaient responsables de ce système de torture et de détention en Russie. Et elle était partie pour cela, s'infiltrer à nouveau dans les territoires occupés occupée par les Russes. On sait qu'elle a été arrêtée à l'été 2023 et puis on a totalement perdu sa trace. Son téléphone a été coupé, plus personne n'était en contact, elle a été officiellement déclarée disparue. Et puis on a su, et on a mené donc toute une enquête pour interroger de nombreuses personnes qui avaient été interrogées, puis incarcérées, puis libérées de ces prisons russes et qui avaient croisé au fil de leur détention Victoria. Et qui nous ont livré des informations sur son passage et on a pu retracer son passage et on a pu déterminer qu'elle avait effectivement passé un certain nombre de mois, 8 mois, dans la prison Taganrog, qui est une sorte de Guantanamo russe où la torture est pratiquée de manière systématique, massive et ultra-violente.
Jusqu'à ce que son décès soit annoncé à sa famille.
Son décès est effectivement annoncé en septembre 2024. Le problème, c'est que 3 semaines plus tôt, elle était censée être libérée. Il y avait un échange de prisonniers de prévu. Victoria avait même eu le droit d'appeler son papa et de lui dire « je vais bientôt rentrer à la maison ». Donc son père s'attendait à ce qu'elle revienne. Elle n'est jamais revenue. Elle est revenue finalement dans un sac mortuaire en février 2025. Une autopsie a été pratiquée. Et lors de l'autopsie, on s'est rendu compte que des organes manquaient. Les globes oculaires avaient été enlevés. Le larynx avait été enlevé. D'autres parties avaient été enlevées, visiblement pour masquer les conditions dans lesquelles Victoria avait trouvé la mort. Et donc nous, on a retracé, poursuivi son enquête pour essayer justement d'identifier qui sont et qui se cachent derrière ce système de détention. Et puis aussi d'enquêter un peu plus sur la structure de cette prison, Taganrog, ce Guantanamo russe, et découvrir comment la torture y est pratiquée.
C'est vraiment un point très important dans votre enquête. Vous expliquez que vous avez réussi à reconstituer grâce à l'imagerie 3D ce centre qui se trouve dans la région de Rostov. Ça permet, c'est ce que vous expliquez, d'avoir de connaître la taille réelle des lieux, ça permet d'avoir une idée de l'ampleur de la torture et éventuellement du nombre de personnes qui s'y trouvent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour nommer les choses, il faut s'en rendre compte. Et pour s'en rendre compte, on a décidé de faire appel à des techniques de visualisation avec nos partenaires du Washington Post, entre autres, du Guardian, mais aussi tous les partenaires de ce consortium Victoria Project, pour essayer de représenter visuellement les tortures. On a aussi retrouvé des images de photos satellites où on voit que la prison de Taganrog s'est agrandie au fil du temps, justement pour créer encore plus de chambres de torture. Et on a aussi pu recueillir, grâce au travail collectif, plus de 50 témoignages d'anciens prisonniers, de personnes qui étaient passées par là, ou de sources qui nous ont indiqué le type de traitement auquel les civils étaient confrontés.
Et là, tout le monde vous parle de torture.
Tout le monde nous parle de choc électrique, tout le monde nous parle de suffocation, de coups très violents, de torture en présence de chiens, de privation de soins. On a aussi des sources qui nous permettent d'établir que 15 personnes ont été tuées dans Taganrog, et que c'est un enfer sur Terre.
Et des centres comme ça, il y en a d'autres?
Il y en a d'autres. En fait, officiellement, il y a 186 lieux de détention en Russie où sont retenus des civils ukrainiens. Et on a pu identifier et confirmer que dans 29 d'entre eux, la pratique de la torture y était systématique. Donc ce sont des informations extrêmement importantes qu'on révèle aujourd'hui. Et c'est un autre chapitre, un autre volet en fait de l'histoire de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Une histoire menée contre les civils aussi. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre de quelle échelle on parle ici. On parle de 16 000 à 20 000 civils ukrainiens qui sont, comme Victoria, des invisibles dans ces chambres à torture, des invisibles dans le sens où ils n'ont aucun contact extérieur, aucun avocat, aucune charge officielle retenue contre eux, ils n'ont pas le statut de prisonnier de guerre, ils n'ont personne pour se défendre et ils sont là en train de torturer. Et ils y sont encore à l'heure où je vous parle.
Oui, c'est ça, on ne parle pas là de guerre traditionnelle avec des guillemets, ce ne sont pas des personnes qui sont engagées militairement, encore moins des soldats ou des membres de l'armée ukrainienne.
Non, et c'est une vraie technique de guerre menée par la Russie pour traumatiser les civils et la population civile ukrainienne. Ils raptent, ils enlèvent, ils kidnappent. Ensuite, ils envoient ces civils ukrainiens dans des stations de police. Et puis ensuite, dans ce qu'ils appellent les garages, des chambres à torture improvisées dans certaines villes. Et puis ensuite, certains vont finir, comme Victoria, à Taganrog, où là, la torture est devenue industrialisée.
On a parlé de centres là en Russie. Ces centres, ils existent aussi sur le sol ukrainien?
Oui, ils existent aussi sur le sol ukrainien occupé par les Russes. Parfois, ils sont les journalistes ou d'autres civils ont été arrêtés et puis amenés très vite dans des lieux quasiment improvisés, d'anciens lieux d'administration ou dans des hangars ou des salles sous des ponts, et pour ensuite être passés du côté russe et ensuite transportés de prison en prison en Russie. Ces personnes-là, on parle de 16 à 20 000 personnes, sont en fait des monnaies d'échange. C'est-à-dire qu'il faut, selon les Russes, les faire souffrir au maximum, les briser au maximum pour éventuellement avoir et obtenir des aveux, les garder en vie pour obtenir une monnaie d'échange contre d'autres prisonniers qui ont été faits prisonniers par l'armée ukrainienne.
C'est ce que vous appelez dans l'un de vos articles la machine à broyer des Ukrainiens. Je vous remercie beaucoup, Laurent Richard, d'être venu jusqu'ici dans nos studios pour nous parler donc de ce travail. Vous êtes journaliste, documentariste, fondateur de Forbidden Stories. Donc on peut retrouver tout le fruit de cette enquête sur votre site Forbidden Stories et de ce travail qui avait été entamé par la journaliste ukrainienne Victoria Roshina. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un coup d'œil à la presse européenne en Espagne. Bien sûr, c'est l'immense panne d'hier qui fait des gros titres. Elle révèle, selon El País, la vulnérabilité de notre dépendance absolue à l'électricité. Mais l'Espagne dispose d'un système électrique robuste et moderne avec suffisamment de pare-feu pour anticiper une panne de cette ampleur, estime le quotidien. Ça n'est pas exactement ce que dit la Razón, expliquant qu'un rapport avait pointé récemment le risque de panne, justement pas pour cette année, mais le texte évoquait 2026. Toute l'Europe est exposée, précise le journal espagnol, avec moins de risques dans les Balkans. En Belgique, Le Soir évoque ces milliers de manifestants qui protestent aujourd'hui dans plusieurs grandes villes du pays. La Belgique au ralenti, nouvelle mobilisation, nous dit le journal, de nombreuses professions contre les réformes envisagées par le gouvernement pour redresser les finances publiques. Les syndicats les comparent à une casse sociale. Et puis la presse nous parle de football aussi. The Independent notamment évoque le sens du destin qu'éprouve Arsenal avant le match de ce soir.
RFI, l'Europe à midi.
Le match de ce soir, c'est la demi-finale aller de la Ligue des Champions en Europe. Duel contre le Paris Saint-Germain. Le match aura lieu à l'Emirates Stadium à Londres. Où l'on vous retrouve, Cédric de Oliveira, bonjour.
Bonjour Anne.
Un duel alléchant entre deux équipes spectaculaires et qui s'annonce très indécis, il faut le dire.
Oui, bah c'est un petit peu ce qu'on peut se dire pour les deux demi-finales. Elles sont très ouvertes cette saison, puisque ce sera un petit peu pareil entre le FC Barcelone et l'Inter Milan demain. Arsenal-PSG, deux équipes qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Une finale pour chaque club en 2006 pour Arsenal, à l'époque où le français Thierry Henry et les Ivoiriens Emmanuel Eboué et Kolo Touré portaient le maillot des Gunners. Pour Paris, c'est plus récent. C'était en 2020 lors d'une finale perdue face au Bayern Munich. Alors pour avoir le droit à une deuxième finale, eh bien, il faudra donc sortir de ce duel entre deux équipes qui se ressemblent beaucoup dans leur style de jeu plutôt offensif, avec deux entraîneurs espagnols, Luis Enrique côté PSG et Mikel Arteta du côté d'Arsenal, deux équipes qui dégagent aussi une force collective qui leur a permis d'aller loin dans la compétition.
Pour ce match aller, Arsenal aura l'avantage de jouer à domicile.
C'est peut-être pour ça que Anne, que The Independent titre là-dessus sur cet honneur, parce que eh bien les Gunners ont une belle carte à jouer. Ils espèrent en profiter, eux qui jouent un des plus grands matchs de leur histoire à l'Emirates, le stade qu'ils ont inauguré en 2006. C'était donc un des plus grands matchs de leur histoire. C'est Mikel Arteta qui le disait hier en conférence de presse, architecte des performances actuelles de cette équipe revenue au plus haut niveau. Les Gunners très solides, c'est la meilleure défense de Premier League cette saison, et même s'ils n'ont pas été sacrés champions, eh bien ils sont très réguliers, trois fois deuxième de Première Ligue consécutivement. L'entraîneur espagnol Arteta, donc, sur le banc londonien depuis 2019, qui a totalement façonné cette équipe. On parlait de force collective. Eh bien, c'est ce qui a fait la différence, notamment face au Real Madrid en quart de finale. Même s'il y a des joueurs, il y a des individualités, hein, comme Declan Rice, Martin Odegaard ou encore Bukayo Saka, qui sont capables de faire la différence.
Et puis en face, de l'autre côté, le PSG, lui, tentera de poursuivre sur sa lancée qu'il a menée jusqu'en demi-finale.
Oui, comme l'an dernier, le PSG est dans le dernier carré, ce qui traduit tout de même, là encore, une forme de régularité, hein, malgré le départ des stars comme Kylian Mbappé l'été dernier. Cette régularité, ça n'a pas toujours été le cas, hein, pour le club parisien qui a longtemps connu des désillusions. Mais Paris, équipe la plus jeune en moyenne d'âge des quatre prétendants à la victoire finale, a montré du caractère dans cette compétition, éliminant notamment Liverpool en huitième de finale, puis Aston Villa en quart. Cette fois, c'est donc Arsenal, un autre club anglais, le troisième d'affilée, qui se présente présente face à lui. Un club que les Parisiens n'ont jamais battu en 5 confrontations européennes. D'ailleurs, la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, au mois d'octobre. Et ça ne s'était pas très bien passé pour les Parisiens. Et les Londoniens s'étaient facilement imposés 2-0. Les Parisiens ont promis un tout autre match. Ils ont changé, a dit leur entraîneur Luis Enrique hier devant les journalistes. On verra ce soir si Paris arrive à tirer son épingle du jeu.
Voilà, Arsenal-PSG, le match commence à 19h, temps universel. Et vous nous le ferez vivre, Cédric de Oliveira. Nos auditeurs auront même la chance de vous retrouver quelques minutes plus tôt en direct sur notre
avec
antenne.
Plaisir.
À tout à l'heure, donc, l'autre demi-finale, je le précise quand même, elle opposera demain le FC Barcelone à l'Inter Milan en Catalogne.
RFI, la France à midi.
On en entend peu parler, mais le Royaume-Uni est en campagne électorale. Nous sommes à 2 jours maintenant d'élections locales dans 23 collectivités seulement, mais qui représentent tout de même 13 millions d'électeurs et qui sont surtout très marqués par des questions nationales. Les enjeux dépassent largement les enjeux locaux et ça n'est pas forcément bon signe pour les travaillistes au pouvoir depuis 10 mois. Ils sont sous la pression des conservateurs qui sont donnés en tête par exemple dans la ville d'Ashford où s'est rendue notre correspondante. La droite traditionnelle d'ailleurs n'est pas la seule menace pour le parti au pouvoir. L'extrême droite populiste de Reform UK est aussi en bonne position dans les sondages, Marie Billon.
Paul Bartlett est en campagne dans le centre-ville d'Ashford. Il est conseiller régional depuis 2017, membre du Parti conservateur, aujourd'hui l'opposition principale au niveau national.
Nous sommes dans un nouveau quartier résidentiel, construit il y a 10 ans environ. Il y a une nouvelle piste cyclable juste de l'autre côté de la statue.
Si Paul a envie de parler de sujets qui sont dans ses compétences, l'état des routes, les services publics locaux, il sait que beaucoup d'électeurs vont voter en fonction de sujets plus nationaux.
Il nous faut admettre que beaucoup de gens ont le sentiment d'avoir été abandonnés par les politiques. Au cours des dernières années, je pense que certains n'ont pas tenu les promesses pour lesquelles ils ont été élus. Et les récentes préoccupations concernant les droits de douane imposés par le président Trump ont renforcé ce sentiment de désenchantement à l'égard des politiciens, même s'il s'agit de décideurs en dehors du Royaume-Uni.
Paul se dit persuadé que la droite peut l'emporter lors de ses élections locales à Ashford, traditionnellement un territoire conservateur. Mais il est conscient que le parti d'extrême droite Reform UK l'étalonne. Surtout si le désenchantement démotive les électeurs comme Louise, 68 ans, qui se promène dans le centre d'Ashford.
Je vote toujours aux élections nationales. Les élections locales, ça ne m'intéresse pas trop. C'est parce que je ne leur fais pas confiance, pour être honnête. En vérité, je n'ai pas non plus confiance dans les politiciens qui sont à Westminster. Aux grandes élections, je vote toujours conservateur. Cette fois, nous nous sommes retrouvés avec les travaillistes et je ne suis pas vraiment satisfait. Faites des travaillistes en ce moment, à cause de tout ce qu'ils ont pris aux personnes vulnérables de la société.
La gauche a réduit le nombre des bénéficiaires des aides au chauffage accordées aux personnes âgées durant l'hiver et veut aussi limiter les allocations aux personnes ayant du mal à travailler à cause de leur santé physique ou mentale. Des décisions qui ont participé à la chute de la cote de popularité de la majorité travailliste. Selon un sondage YouGov, 61% des Britanniques estiment que Keir Starmer, le Premier ministre, ne fait pas du bon travail. Parmi les mécontents, ce grand-père de 68 ans qui votera pour l'extrême droite, Reform UK.
Je vais voter pour Reform UK cette année. C'est un vote de protestation. Aucun des autres partis ne s'intéresse à la question de l'immigration et des traversées de la Manche. Normalement, je vote pour le parti conservateur. Mais ils n'ont pas pu régler le problème de l'immigration. Aux dernières élections nationales, j'ai voté pour les travaillistes. Mais eux, non plus, ne sont pas en mesure de régler le problème. Donc maintenant, je vais voter pour Reform UK en signe de protestation. En vérité, ils sont bien trop à droite pour moi sur beaucoup de points, mais ce sont ceux qui sont les plus proches de mes objectifs en matière d'immigration. Mon épouse a besoin d'un rendez-vous à l'hôpital et elle est sur une longue liste d'attente parce que nos services de santé sont débordés. Et pas seulement à cause de l'immigration, mais aussi à cause du manque d'investissement.
Cet électeur cite les 8 millions de livres sterling, soit plus de 9 millions d'euros dépensés chaque jour pour loger les demandeurs d'asile. L'immigration irrégulière est un enjeu national et local dans le Kent, région du sud de l'Angleterre, point d'arrivée pour tous ceux qui traversent la Manche. Deacon Spain en est bien conscient. Il est conseiller régional travailliste à Ashford, candidat à sa réélection lui aussi. L'immigration est l'un des sujets d'ampleur nationale qui ressort le plus dans cette campagne. Et si la stratégie de Deacon Spain est de ramener la conversation vers ce qui est en son pouvoir d'élu local, ses adversaires n'ont pas tous la même technique.
Reform UK a choisi de mettre Nigel Farage en vedette au premier plan sur ses prospectus et d'aborder des thèmes de politique nationale, pas vraiment de politique locale à ce que je vois. Très peu d'informations sur leurs candidats aussi. Clairement, ils veulent que les électeurs se concentrent avant tout sur les sujets portés par le parti au niveau national. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont réussir à recueillir des votes.
Face à des partis qui, selon eux, ne leur proposent aucune solution, certains électeurs, comme Louise, 23 ans, font le choix des petites formations.
Je pense que je vais voter pour les Verts. Je veux un parti différent des travaillistes et des conservateurs. Aux dernières élections nationales, je crois que j'ai voté pour les travaillistes. Seulement parce qu'à l'époque, les conservateurs étaient tellement mauvais et qu'ils offraient une alternative. Mais je regrette cette décision. Je ne pense pas qu'ils tiennent assez leurs promesses. Ils s'étaient aussi engagés à ne pas faire certaines choses et ils sont revenus dessus, comme pour les retraités par exemple. C'est très difficile parce qu'ils mentent tous finalement.
Selon les analystes, le 1er mai, les électeurs pourraient bouder les urnes ou au contraire vouloir s'en servir en nombre pour punir les partis principaux.
Un reportage de Marie Billon à réécouter dans Accent d'Europe à partir de 19h10 temps universel. Dominique Dezonnet, on sait depuis des années que les scientifiques cherchent à développer des alternatives plus écologiques au béton et à l'acier dans les constructions conventionnelles pour construire des maisons moins polluantes, moins difficiles à construire. Et des chercheurs de l'Université d'État du Montana aux États-Unis pensent avoir trouvé la solution avec un matériau aux propriétés auto-réparables. Pour ça, ils ont mélangé des cellules bactériennes et du mycélium fongique. Vous allez nous expliquer tout ça.
Oui, cette innovation qui se situe à la croisée de la biologie et de l'architecture ouvre en fait de nombreuses perspectives pour les professionnels de la construction. Un collectif d'ingénieurs et de chercheurs de l'Université d'État du Montana aux États-Unis a récemment mis au point un nouveau matériau qui combine donc du champignon, du mycélium fongique et des cellules bactériennes. Leur objectif est bien sûr de limiter, voire de substituer le recours au béton et à l'acier, dont la production est responsable d'une grande partie des émissions mondiales de CO2, notamment la fabrication du ciment, qui génère à lui seul près de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le premier ingrédient utilisé par les chercheurs est le mycélium neurospora crassa, une espèce de champignon microscopique qui est plus connu sous le nom de moisissure du pin orange, dont la première étude remonte à 1843 lors de son infestation des boulangeries françaises qui ont contaminé tout le pain. Les chercheurs emploient donc son fongique qui se multiplie rapidement, développant des structures internes complexes afin de réaliser des constructions aux formes architecturales très sophistiquées.
Des cellules bactériennes vivantes sont donc ajoutées au béton fongique.
Effectivement, ce qui confère aux matériaux des propriétés auto-régénératrices. Cet apport bactérien donne au réseau des champignons le pouvoir de se réparer et de décomposer aussi les contaminants environnementaux. L'un des grands avantages de ce mortier biologique est sa production à basse température, contrairement au béton qui nécessite une chaleur intense pour sa fabrication. Par ailleurs, la capacité naturelle des matériaux fongiques à s'adapter aux différentes conditions météo a permis à l'ONG, par exemple, de Studio d'architecture Red House en Namibie, de construire des logements aux réfugiés climatiques. Un projet 100% fongique, donc, qui, en parallèle, cultivait aussi des champignons, là, comestibles, afin de répondre aux problèmes de pénurie alimentaire.
La mycotecture, qui est une contraction des mots mycélium et architecture, intéresse Dominique au plus haut point les agences spatiales comme la NASA.
Oui, avec un projet très sérieux qui a déjà reçu 2 millions de dollars de la part de l'agence spatiale américaine qui envisage de cultiver à moindre frais et sur place les matériaux des habitats qui hébergeront les futurs résidents permanents de la Lune et plus tard de Mars. Évidemment, cette technique de construction prometteuse n'est pas encore capable de faire pousser directement la maison des Schtroumpfs en forme de champignon, on le rappelle, dans laquelle logent ces personnages de bande dessinée. Plusieurs défis défis doivent encore être relevés, notamment le développement de méthodes efficaces pour maintenir la viabilité des cellules vivantes sur une longue période, ainsi que de rendre ces matériaux biosourcés aussi compétitifs que ce très polluant que nous proposent depuis des lustres les industriels.
Dominique Dezonnet, on a un peu bafouillé pendant cette chronique, oui. C'est de ma faute, c'est moi qui avais lancé le ton au début, j'espère que nos auditeurs nous en excuseront. Quand on parle de peinture congolaise, on pense souvent aux grands noms des années 70 à Kinshasa, Chéri Samba ou Chéri Chérin, à leur engagement social. Eh bien, notre personnalité du jour est leur héritier. JP Mika a la même force, une volonté affichée de défendre et de protéger l'environnement, et il apporte dans ses tableaux une foule de détails. Ces tableaux, il les expose en ce moment à Paris, à la galerie Magnin, et il en parle à Olivier Roger.
Jean-Pierre Mika, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous sommes devant un nouveau tableau, les chaussures crocodiles. Le sujet est évident, on voit un crocodile, on voit des hommes qui ont des chaussures en crocodile. C'est un hommage à quoi ?
On fait beaucoup de choses avec les peaux des crocodiles. On fait des sacs, on fait des chaussures, on fait des chaussures. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ça avec modération.
Ce qui est étonnant aussi dans le tableau, c'est qu'il y a différentes inspirations. Là, on a l'impression d'être presque dans des peintures beaucoup plus naturalistes et moins, on va dire, surréalistes. Vous aimez bien mélanger les styles comme ça dans la même toile ?
Oui, moi j'aime bien qu'au moment que les gens qui sont devant mes toiles, tu vas voir qu'il y a toujours des choses que vous devez rester là. Si vous regardez mes toiles, tu peux regarder, il y a petites choses, petits détails, là, il faut que je dors là, vraiment.
Mais c'est ça, on peut rester des heures à regarder les détails.
Ouais, les heures, là, pour regarder les détails. Donc, moi, ça prend beaucoup de temps. Je peux faire 3 mois ou 4 mois dans une seule toile, quoi, c'est ça. Je fais des choses comme ça.
Quel est le but justement de mettre autant de détails en arrière-plan du tableau, en arrière-plan des trois personnages et du crocodile ? Le but c'est quoi ? Vous l'avez dit, c'est attirer l'attention des gens, retenir l'attention des gens, mais ça a un sens aussi ?
Oui, moi je fais ça aussi pour donner aussi la beauté. Il faut voir beaucoup de détails pour que ça soit vraiment, les gens soient vraiment captifs dans les tableaux, c'est ça. Beaucoup des artistes aussi commencent à faire les détails comme JP Mika. Dieu merci, il y a vraiment l'école JP Mika. Je suis vraiment devenu comme référence, comme miroir. Beaucoup de gens regardent à travers mes œuvres.
Alors, il y a les détails, mais il n'y a pas que les détails. Parce que dans votre patte, dans votre style JP Mika, il y a une finesse, je trouve, dans l'utilisation des couleurs, de la lumière. Ça s'apprend ou c'est inné ?
Non, là je peux dire que c'est inné, mais j'avais renforcé ça au moment que... Puisque nous, dans notre génération, il y avait quelques artistes, on a passé dans le cinéma. Puisque chez nous, là-bas, il y avait des cinémas, on met des affiches de cinéma, et nous, on est là pour les suivre, ça. Des affiches pratiquement difficiles à faire. Tu vas trouver comme les affiches de Rambo 3. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails. Mais il faut que tu suives ça vraiment très bien comme un copie fidèle. C'est ça qui nous a renforcé pour faire bien les détails. Puisque ce que moi je fais, je disais ça tout le temps, que c'est l'inspiration divine. Quelque chose là, je ne peux pas imaginer ça, c'est spirituel. Ça sort vraiment dans mes œuvres. Je voulais que tout le monde bénéficie de ça.
Vous parlez de spiritualité. La spiritualité joue un grand rôle dans votre travail ou pas ?
Moi, je disais oui. Et beaucoup de gens voient que tu dessines bien. Mais moi, je disais à Dieu, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que les talents. J'aimerais aussi votre faveur. J'aimerais aussi votre grâce. Ça accompagne mes œuvres.
Donc avant de commencer, vous priez ?
Oui, j'ai prié. Au moment que j'ai présenté cette exposition, moi et ma famille, on a fait 21 jours de prière pour invoquer la présence de Dieu, pour invoquer la réussite de notre exposition.
Merci beaucoup.
Merci.
JP Mika au micro d'Olivier Roger. Dans un peu plus d'une minute, un nouveau journal sur RFI et puis à 12h30 temps universel, l'actualité africaine avec vous Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Anne.
Et au sommaire,
une preuve de vie d'Eva Gretzmacher, cette Autrichienne de 74 ans enlevée à Agadez en janvier dernier. Une photo a été adressée aux médias Aïr Info Agadez. Et puis des hommes de la SAMI RDC, la force de la SADC qui était déployée dans l'est du Congo, ont commencé ce matin à quitter Goma. Ils étaient repliés dans une base de la Mouna MONUSCO depuis la prise de la capitale du Nord Kivu par les rebelles de l'AFC et leurs alliés rwandais.
À tout à l'heure.
RFI, la sélection du mois.
Émilie Marche.
J'attendais pas à vivre en tête et en deux, comme deux cœurs coupés en deux, cœurs coupés en deux, cœurs coupés en deux.
Tu crois vraiment qu'on va bosser jusqu'à ce qu'on soit cabossé?
Pascala et le Super Mojo.
On veut pas vieillir au boulot, mais mettre les pieds dans l'eau.
On va pas bosser.
Ah ouais. RFI Musique.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Lucie Bouteloup.
Céline Milia Baumgartner a 8 ans quand elle perd ses deux parents dans un accident de voiture. De ce drame et de son enfance, il ne lui reste que des souvenirs à partir desquels elle va tisser des histoires. Son histoire. C'est Les bijoux de pacotille, un seul en scène, mise en scène par Pauline Bureau.
De vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.